France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 26 septembre, soyez les bienvenus sur France Musique. David Travailleur est à la réalisation, Cindy Le Grumelec et Emmanuel Dupuis à la technique. Soyez les bienvenus dans cette émission consacrée à la culture, à l'écologie, au chant choral, à la musique bien sûr. Voici le menu du jour. À 7h45, c'est la violoniste Amandine Beyer qui partagera un croissant et un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous emmènera en voyage dans l'extraordinaire œuvre chorale de Francis Poulenc. À 8h15, notre reportage, Sophia Anastasio nous emmènera en Normandie à l'Opéra de Rouen, qui ouvre sa saison avec Tannhauser de Richard Wagner. À 8h30, notre invité sera Paul Ardenne, historien de l'art et commissaire de l'exposition Courant vert créé pour l'environnement que propose l'Espace Fondation EDF. Enfin, à 8h50, Christophe Chassol nous parlera de bitonalité avec Stravinsky et Respighi notamment. Très très bon réveil à l'écoute de France Musique. L'ouverture de Candide Bernstein. Pour commencer ce matin, nous écoutions l'orchestre symphonique de Sao Paulo, Marine Alsop, à la direction. Et nous allons tout de suite prendre la direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la 16e édition du festival de Rochebonne qui s'est ouverte hier soir et qui continue jusqu'à demain. Au menu de ce samedi, une journée spéciale consacrée à Beethoven. Vous pourrez entendre dès ce matin les étudiants du Conservatoire de Lyon s'emparer de l'œuvre de ce compositeur, mais également les pianistes Tigran Pogossian, Josquin Antal et Guillaume Coppola, mais aussi l'altiste Arnaud Thorette. Le concert de clôture de demain se fera lui en compagnie du quatuor Debussy, notamment. Concerts qui seront donnés donc au château de Rochebonne. Alors certes, la jauge est légèrement réduite pour pouvoir assurer toutes les précautions de rigueur, mais sachez que les concerts seront également diffusés le week-end prochain, donc du 2 au 4 octobre, sur la chaîne YouTube du festival, afin de permettre à tous d'entendre les musiciens. Mais bon, nous préférons tous évidemment entendre ces musiciens en direct et sur des scènes de concert. Donc revenons-en au château de Rochebonne. L'accès au concert se fait uniquement sur réservation en ligne pour faciliter l'organisation. Je vous donne donc rendez-vous sur www.rendez-vous.rochebonne.fr. Le troisième mouvement de la 17e sonate La Tempête de Beethoven, interprétée ici par Hélène Grimaud. Il est 7h42.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Un extrait de A Ceremony of Carols de Benjamin Britten, interprété par le chœur du King's College de Cambridge. Et c'est l'heure de notre choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. Bonjour Amandine Beyer.
Bonjour Saskia.
Quel plaisir de vous accueillir, mais très bien, et vous?
Ben oui, j'avais eu juste très peur de rater le rendez-vous.
Voilà, nous sommes tous rassurés. Vous êtes bien là avec nous ce matin. Qu'y a-t-il sur la table de votre petit déjeuner, Amandine?
Oui, alors c'est pas du tout prêt, mais mais il y aura du thé et du thé. Il y a du thé, ça c'est le seul truc qui est incontournable. Après, de temps en temps, il y a du pain avec du... C'est très français, il y a du pain avec des tartines et de la confiture que je fais ma maman et que je ramène de la maison ou que je fais moi-même, ou du miel, et voilà.
Que de bonnes choses. En tout cas, de quoi vous donner de l'énergie, parce que vous êtes suractive, Amandine Beyer, hein, violoniste, vous avez votre ensemble Linconity, et j'aimerais qu'on parle ce matin de cette académie dont vous allez lancer la troisième édition demain, troisième édition de cette académie que vous avez créée justement avec votre ensemble, une académie de musique de chambre et aussi de travail corporel. Racontez-nous en quoi cela consiste.
Alors, justement, demain, j'espère que ça va bien marcher parce que il y a quand même, à part la musique et l'amour et tout dans la vie, il y a aussi l'épidémie et je vous...
Et la réalité.
Difficile. La réalité, là, parce qu'il y a beaucoup de quarantaine en ce moment et les groupes venaient un peu de l'Europe entière et on a, bon, c'est, bon, je croise juste les doigts pour que ça se passe à peu près normalement demain et surtout parce que, voilà, l'idée c'était de faire pas seulement, moi, j'adore la musique, mais de temps en temps, quand vous mettez beaucoup de musiciens ensemble et qu'on fait que de la musique, après on parle que de musique, au bout d'un moment, voilà, j'ai besoin de faire autre chose et surtout j'ai besoin de bouger. Et j'avais très envie aussi de que les violonistes surtout soient pas et les clavecinistes surtout soient pas seulement sur leur instrument toute la journée et s'occupent un peu d'eux-mêmes et de leur corps. Et donc voilà, donc j'ai avec Olivier Fourès qui est un ami très longue date avec qui je fais beaucoup, qui est musicologue et violoniste mais qui est aussi surtout danseur à la base, et Thibaut Amagneux qui est aussi un danseur et qui est notre prof de gym de l'académie. On a décidé de mélanger la gym et la musique pour changer un peu les esprits.
Et pour et les corps. Proposer d'autres pistes aux musiciens d'inspiration, bah, surtout, peut-être aussi.
Oui, mais c'est surtout pour qu'ils prennent. L'objectif, c'est quand même après que voilà, qu'ensuite ils se sentent mieux en faisant de la musique, mais aussi dans la vie en général, parce que c'est sûr que si vous avez mal partout après avoir répété ou avant de jouer, c'est pas non plus fantastique pour votre musique. Mais Voilà, donc c'est juste que demain, il va falloir s'organiser pour... voilà.
Alors on croise les doigts pour vous, Amandine Beyer, et que ça se passe bien au Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan. Il y aura fort probablement une présentation publique le 30 septembre prochain. Bah, vous nous tiendrez au courant, comme ça on partagera ça avec nos auditeurs. Ah, voilà, en plein air.
Voilà.
Pour pouvoir respecter la distanciation sociale dont on parle tellement depuis quelques temps. Alors un petit mot sur ces projets à venir. Autre projet, Amandine Beyer, début octobre, 2 semaines de résidence à la Maison de l'économie créative et de la culture à Bordeaux pour une création qui sera donnée toujours au Théâtre des Quatre Saisons en janvier prochain. Création d'un spectacle mêlant musique baroque et musique de tradition orale. Ça, c'est un autre projet.
Oui, en ce moment, il y a beaucoup de choses. Je crois que le fait d'avoir du temps à la maison, ça a permis aussi de se reposer et de réfléchir à ce qu'on avait vraiment envie de faire avec le groupe. Et je dois dire que Marie-Michèle Delfra, qui est la directrice du Théâtre de Gradignan, a toujours des très bonnes idées. Donc déjà, elle nous permet de développer des choses un peu hors normes comme le stage qui est un peu aussi qui est déjà assez spécial, et c'est elle qui m'a présenté la manufacture vocale, qui est un groupe de 5 chanteurs, 3 chanteurs du sud-ouest, un chanteur indien et un chanteur marocain, et donc il y a 5 chanteurs et 5 instrumentrices de l'incommunity, et on travaille un peu sur notre répertoire, chacun son répertoire, et en essayant de voir si en allant les uns vers les autres. C'est très intéressant parce que moi je viens d'une culture très écrite et eux ils viennent d'une culture très orale. Il y a 2 ou 3 personnes dans le groupe qui savent simplement pas lire la musique, donc c'est très chouette. On s'apprend beaucoup de choses, ils ont beaucoup de patience parce que ils vont très vite pour développer des choses dont ils ont l'habitude, nous un peu moins, et c'est fascinant de travailler avec eux. Ça, c'est comme une nouvelle gym pour moi aussi.
Et trouver des points de rencontre. Bien justement, oui. On parle de partage, bien partageons votre choix musical. Ce matin, Amandine Beyer, vous avez choisi une sonate peu jouée, peu enregistrée, peu diffusée, qu'on a même eu du mal à trouver, vous avez dû nous l'envoyer. Dites-nous tout.
Est-ce que j'ai des canaux, j'ai des canaux spéciaux?
Oui, privilégiés.
Voilà, j'ai eu le disque presque avant tout le monde. C'est un disque fait par deux amis qui sont Naaman Slushin et Lawyer Seif, et qui est dédié à Pablo Casals. Déjà, ce sont deux amis, donc Eloy m'a donné le disque, et donc je l'ai écouté. Un jour où je pouvais, depuis l'endroit où je l'écoutais, regarder la mer, et en fait, ce disque j'écoute beaucoup de disques, je reçois beaucoup de disques, j'achète encore mes disques, je fais des disques, donc, mais de temps en temps, j'écoute des disques et c'est difficile de temps en temps d'être musicienne et ensuite d'écouter de la musique pour le plaisir et de se laisser aller et de pas réfléchir à ci, à ça. Et voilà, c'est de temps en temps qu'on est tellement immergé dans sa profession, j'aime retrouver le plaisir simplement d'écouter. Et ce disque m'a fait cet effet. En fait, avec ma sœur, j'ai aussi un duo avec piano. Et on travaille sur beaucoup de répertoires du XXe siècle. D'ailleurs, on a aussi fait un disque qui sortira, j'espère, dans 2 mois. Et ce disque, en fait, m'a rappelé ce que je cherche avec cette musique, c'est-à-dire des répertoires qu'on joue pas trop souvent. C'est aussi quelque chose qu'on fait avec l'Incognity. C'est de la musique incroyablement belle. Et quand j'ai mis le disque, j'allais dire sur la platine, mais en fait c'est un disque, c'est un CD. Mais quand même, j'avais l'impression qu'il y avait 2 musiciens, c'était comme une lampe d'Aladin que ça frotte. Et en fait, les 2 musiciens sortaient du disque et venaient me raconter l'histoire de la sonate.
Eh bien, on va laisser nos auditeurs avoir la même sensation chez eux, peut-être autour d'un bon café, d'une tasse de thé, autour d'une assiette avec un joli croissant. Merci beaucoup, Amandine Beyer. On découvre votre choix musical tout de suite. À très bientôt. On croise les doigts pour vous, pour votre académie ce week-end, et on prendra de vos nouvelles très bientôt.
Mais moi, je croise les doigts pour tout le monde ce matin, pour que tout aille le mieux possible.
Merci beaucoup, Amandine Beyer.
Au revoir, merci.
À très
bonne
bientôt.
Journée. Au revoir. Thank you.
Les premières mesures de cette sonate inachevée de Pablo Casals, interprétée par Naval Slushin et Eloy Orzais, le choix musical partagé par la violoniste Amandine Beyer avec nous ce matin sur France Musique. La 35e édition du Festival Baroque de Pontoise a démarré hier soir. Festival placé cette année sous le signe de l'Italie, du voyage, des rencontres et des échanges. En témoigne ce concert qui sera donné demain à 17h en la cathédrale Saint-Maclou à Pontoise. Mariana Flores et la Capella Mediterranea dirigée par Leonardo Garcia Alarcón, avec au menu Barbara Strozzi et Antonia Bembo, deux élèves, deux compositrices élèves de Francesco Cavalli. Concert à ne pas manquer si vous êtes dans les environs et si vous aimez comme moi ces musiciens, ça tombe bien car je vous offre ce matin leur enregistrement des grands motets de Jean-Baptiste Lully enregistré avec le chœur de chambre de Namur, disque sorti chez Alpha. Nous allons écouter un extrait du Tédéum que Lully dirige notamment en 1687 et au cours duquel il se frappe violemment le pied avec sa lourde canne, coup qui sera à l'origine d'une blessure qui l'emportera. Pour tenter votre chance, eh bien rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Cliquez sur « Contactez-nous » et laissez vos noms, prénoms et adresses postales complètes. Et puis la bonne réponse à la question qui va suivre, vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Ce matin, je vous propose de deviner la nationalité de Lully avant qu'il soit naturalisé français. Était-il belge, brésilien ou italien? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Un extrait du Tédéum de Jean-Baptiste Lully avec le chœur de chambre de Namur à la Capella Mediterranea. Leonardo Garcia Alarcón, extrait de ce disque paru chez Alpha que je vous propose de gagner ce matin. Il suffit de deviner la nationalité de Lully avant qu'il soit naturalisé français, belge, brésilien ou italien. Vous pouvez tenter votre chance sur francemusique.fr. Je vous souhaite bonne chance.
Un grand chœur à cinq parties, un grand orchestre, un soprano solo, et puis un ton tantôt grave, fervent, mystique, léger, frivole. Près de 70 ans après sa création, le Stabat Mater de Poulenc est au programme de la Tribune des critiques de disques ce dimanche à 16h sur France Musique. J'attends vos votes sur francemusique.fr. À dimanche.
Les médias publics, ce sont les vôtres. France Musique en fait partie. Alors, quoi de plus normal que d'imaginer notre avenir avec vous? En 2018, vous étiez très nombreux à nous répondre. Alors, en cette année si particulière, qu'attendez-vous de France Musique? Partage, émotion, culture, éducation. Venez proposer vos idées sur nosmediapublics.fr. Parce que rien ne se fait sans vous, inventons aujourd'hui ensemble France Musique. Il vous reste 2 jours pour participer.
France Musique. France Musique.
France Musique, il est 8h. Et la chronique Battement de cœur, c'est avec Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Ce soir, à l'auditorium de Radio France, le cœur de Radio France fait sa rentrée sous la direction de sa directrice musicale, Martina Batic, avec des œuvres de Francis Poulenc, Bruch et Beethoven. Ce cycle, ce concert fait partie d'un cycle qui est intitulé Chorus Line.
Oui, c'est un très beau programme avec notamment une œuvre de Francis Poulenc. Vous connaissez le lien fort entre ce chœur de Radio France et Poulenc, lien ancien et magnifique. Et on va entendre ce soir Figure humaine, composée en 1943. Un extrait de cette œuvre, Liberté, interprété par le chœur de Radio France dirigé par Sophie Janin.
J'adore ça.
Oui, c'est une écriture vocale magnifique et ce chœur de Radio France a un lien très ancien. Le chœur a énormément chanté de Poulenc et magnifiquement, on connaît beaucoup de magnifiques enregistrements.
Alors on connaît l'amour de Poulenc pour la voix, mais que dire de sa production pour chœur justement ?
Alors il a beaucoup composé pour chœur, des merveilles et dans des styles très contrastés. Il y a des pièces profanes dans l'esprit de la Renaissance comme les 8 chansons françaises.
Mais il compose aussi des œuvres profondément religieuses et inspirées, a cappella ou avec orchestre. Il écrit aussi bien pour les chœurs adultes que pour les chœurs d'enfants. Mais ce qui est remarquable, toujours avec son style, sa griffe reconnaissable entre toutes.
Oui, alors ses caractéristiques, les caractéristiques de son style sont en fait très hétérogènes, comme chez tous les compositeurs. D'abord, Poulenc se délecte des belles harmonies, des grandes marches, des choses tout à fait délicieuses sur plan harmonique. Et on retrouve aussi chez lui, comme chez Stravinsky, mais utilisé autrement, des traces de musique du passé. Un peu comme chez Picasso en peinture, c'est-à-dire que ce XXe siècle est très hybride et inventif. Alors on retrouve chez Poulenc la musique de la Renaissance, comme dans son œuvre profane, mais aussi le choral de Bach, qui a une très grande présence dans l'œuvre de Poulenc. Et dans la musique religieuse, il met en scène des textures totalement planantes. Elles me font beaucoup penser à la pop des années 70, ce que j'aimais chez les Pink Floyd quand j'avais 20 ans, et cette possibilité, cette capacité à écrire des nappes tout à fait planantes qui font penser, qui me font penser en tout cas à la statue du Bernin, une très belle statue dont Lacan parle dans l'extase de Sainte-Thérèse. Donc l'extase chez Poulenc qui est toujours là dans ces musiques planantes et qu'on retrouve ici dans un extrait des Litanies de la Vierge Noire. C'était un extrait des Litanies à la Vierge Noire, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, la maîtrise de Radio France, dirigée par Mikko Franck.
Et le chœur de Radio France sera en concert ce soir à 20h à l'auditorium de Radio France avec cette autre œuvre de Francis Poulenc, Figure humaine. Poulenc a décidément beaucoup de succès parmi mes chroniqueurs. Christophe Chassot nous parlait du Gloriette Poulenc la semaine dernière et puis vous, aujourd'hui Marc-Olivier. Tant mieux, écoutons-le, parlons-en, chantons-le.
Nous sommes des gourmands.
bien évidemment. Concert donc ce soir pour le cœur de Radio France, qui sera d'ailleurs enregistré et diffusé ultérieurement sur France Musique et à retrouver sur francemusique.fr. Et puis on entendait un communiqué un petit peu plus tôt, la tribune des critiques de demain sera consacrée, elle, au Stabat Mater de Poulenc. Poulenc. Merci beaucoup, Marthe-Olivier Dupin, et à la semaine prochaine.
Avec plaisir, Saskia.
Et un petit mot sur la 32e édition du Festival de l'An qui a démarré au début du mois de septembre, édition qui se poursuit jusqu'au 10 octobre. Ce soir, la cathédrale de L'An accueillera dès 20h l'Insula Orchestra, Laurence Equilbet à la direction bien sûr, mais aussi la soprano Vanina Santoni, au programme Mozart, Beethoven et la magnifique symphonie italienne de Mendelssohn dont nous écoutons tout de suite un extrait. Pour prendre vos places, pour avoir plus d'informations sur les autres concerts à venir, je vous donne rendez-vous sur www.festival-lan.fr. Le premier mouvement de la 4e symphonie de Mendelssohn, interprété par Claudio Abbado, qui dirigeait l'Orchestre symphonique de Londres. Il est 8h16. Fidèle à son histoire wagnérienne, l'Opéra de Rouen-Normandie ouvre sa saison avec Tannhäuser. La production de l'Opéra de Wagner a été aménagée mais maintenue dans son intégrité par rapport à ce qui avait été imaginé avant la crise, notamment grâce à la transformation du parterre devenu fosse d'orchestre. Sophia Anastasio, pour notre reportage du jour, a suivi pour nous les coulisses des répétitions.
Installés devant la scène, les musiciens s'apprêtent à démarrer la pré-générale. Une œuvre imposante pour une levée de rideau en pleine période de pandémie. L'objectif était de la maintenir coûte que coûte, nous déclare Loïc Lachenal, directeur de l'Opéra Rouen-Normandie.
Très vite, j'ai eu envie de défendre l'ouvrage dans son intégralité, dans son intégrité aussi. Et quand même, dans l'été, on a pu entrevoir une solution pour garantir suffisamment d'espace entre les musiciens, qui était de les sortir de la fosse et de les installer sur une grande plateforme qui est le prolongement de la scène, qui occupe tout le parterre du théâtre et qui nous permet d'installer les presque 70 musiciens avec les distances nécessaires qui sont en cours aujourd'hui. Donc c'était aussi une sorte d'acte de résistance de dire, bah oui, pour tous les gens qui vivent de leur métier, on peut encore montrer de l'opéra, c'est à ce prix-là, c'est avec ces efforts-là, mais on peut y arriver. Les efforts, ils sont durs au quotidien, mais quand même on y arrive.
C'est en coulisses sur le plateau que nous retrouvons le directeur technique par intérim, Gabriel Méraud-Lanfray. Il nous présente cette fosse d'orchestre sur pilotis que l'équipe a conçue.
On a utilisé ce qu'on appelle des praticables standards, qu'on utilise dans tous les théâtres. Et on les a posés à cheval sur les rangs de fauteuils. Ensuite, in situ, avec des constructeurs, on a fait des pièces de bois pour les relier entre eux, pour essayer d'avoir un plateau homogène. Et on a recouvert ça d'un plancher pour pouvoir y mettre nos musiciens, avec les garde-corps, avec tout ce qui va bien. Et ça représente donc 2 semaines de travail pour 6 personnes. Il y a 4,5 tonnes de matériel dessus. Et pour faire une surface d'à peu près 170 mètres carrés, presque 180 mètres carrés, pour pouvoir accueillir les 62 musiciens de cet ouvrage Tannhäuser.
Si l'on entend des techniciens qui patauchent, c'est parce que les chanteurs passent une bonne partie de la production les pieds dans l'eau dans cette mise en scène de David Bobet. Est-ce que ça change pour eux de chanter avec l'orchestre en face? Nous avons posé la question à Catherine Hunold. Elle interprète sur scène les 2 rôles féminins.
Bien sûr, enfin c'est nouveau. On n'a jamais l'habitude d'avoir l'orchestre en face de soi, donc c'est incroyable.
Ça vous donne pas envie de les regarder
Mais si, mais je les regarde tout le temps. Non, je regarde le chef. Non, c'est passionnant en fait. Mais c'est vrai que pendant les répétitions, je me suis surprise à les regarder. Et eux se retournent, je ne sais pas si vous avez vu, ils se retournent vers nous aussi, ils peuvent nous voir. C'est un contact, en fait, moi j'aime beaucoup.
La mise en scène a également dû s'adapter aux normes sanitaires. Lorsqu'ils ne chantent pas, les choristes sont masqués et ils doivent respecter des distances de sécurité. On écoute David Bobet, le metteur en scène.
C'est bien que vous ayez eu l'impression qu'ils se touchaient, les choristes, parce qu'en fait, non, ils sont vraiment distanciés les uns des autres. 2 mètres devant, 2 mètres derrière, 1 mètre de chaque côté entre chaque choriste. C'est ce qui est toujours magnifique de travailler avec des chœurs, et le chœur Accentus particulièrement ouvert aux propositions qu'on peut faire en mise en scène, c'est qu'il y a toujours un effet masse. C'est toujours la représentation du peuple sur scène, et évidemment, même avec ces distances-là, l'effet de collectif est important.
C'est la première fois que Catherine Hunold retourne sur scène depuis Parsifal à Palerme en février dernier. Reprendre avec Wagner, c'est un plaisir, dit-elle, une chance énorme. Les solistes ne sont pas masqués, mais ils se font tester toutes les semaines, ce qui lui permet notamment d'embrasser sur scène Tannhäuser, interprété par Stéphane Wincke.
Si on ne prend pas de risques, il n'y a pas de magie. Donc c'est chacun fait des compromis avec soi-même pour se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que j'embrasse, est-ce que j'embrasse pas. C'est compliqué, hein, je vous avoue, c'est pas évident. Mais on est tous ensemble depuis maintenant 4-5 semaines. Donc voilà, il y a quand même une confiance qui s'établit.
Thank you.
c'est bien la confiance entre tous les artistes et les équipes qui permettent à la production de tenir, nous affirme Loïc Lachenal. L'opéra sera donné à Rouen jusqu'au 3 octobre et diffusé ce soir-là sur grand écran dans toute la Normandie et à la scène musicale à Boulogne.
Sophia Anastasio qui était dans les coulisses de cette production pour nous il y a quelques jours. Et sachez qu'après le tournage de ce reportage, nous avons appris l'annulation de la première initialement programmée pour demain. Un soliste asymptomatique a été en effet diagnostiqué positif à la Covid-19. Une période d'isolement de 7 jours a été mise en place pour les artistes. Ainsi, les représentations de mercredi prochain, le 30 septembre et de samedi prochain pourront être maintenues. Plus d'informations sur le site opéra-de-rouen.fr.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Le Beaux-Arts Trio, ici dans ce presto, extrait du trio en mi bémol majeur, Rebouken 15, numéro 32, Joseph Haydn. 8h25, juste avant d'accueillir notre invité, Paul Ardenne, je vous propose de jeter un œil au menu de notre soirée opéra, tout à l'heure, dès 20h sur France Musique, avec Judith Chen, bien sûr. Au menu, Zaza, opéra lyrique de Ruggero Leoncavallo, donné en septembre dernier au Théâtre An der Wien. L'histoire d'une chanteuse française de music hall, qui s'appelle donc Zaza, et qui va tenter par tous les moyens de séduire un homme d'affaires parisien, Miliau Dufresne, qui semble préférer malheureusement sa rivale Floriana. Bohème parisienne et idéaux conjugaux sont au cœur de cet opéra rarement interprété. On écoute ici la soprano Svetlana Aksenova qui incarne Zaza dans cette production dirigée par Stéphane Zoltesch. Au casting également le chœur Arnold Schönberg et l'orchestre symphonique de la radio de Vienne. En voici un petit avant-goût. «
Zitto! Baciate! Non piangete! È mamma!
Un air extrait de Zaza de Leone Cavallo, extrait de cet opéra à découvrir ce soir dans son intégralité dès 20h sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
8h30, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Bonjour Paul Ardenne.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, historien de l'art, commissaire de l'exposition Courant Vert créé pour l'environnement qui est à découvrir à l'espace Fondation EDF jusqu'au 31 janvier. Courant Vert créé pour l'environnement, une réunion d'artistes internationaux engagés dans le combat écologique qui dénonce les effets de l'activité humaine sur l'environnement. Doit-on parler, Paul Ardenne, et ça c'est une grande question, c'est un vaste débat, je le sais, d'art écologique, d'art environnemental, d'art vert? Quelle est la bonne appellation?
Il n'y a pas de terme, en fait. Tout dépend. D'ailleurs, on a pris l'habitude en France de dire art écologique ou art environnemental. Si vous allez dans le monde anglo-saxon, on va parler de eco-art. Bon, ce qui est pas non plus très clair puisque ça peut renvoyer à l'économie. Donc, il n'y a pas vraiment de label, mais disons que cette appellation est en train de se fixer progressivement et je pense que le terme d'art écologique, sans doute, va l'emporter, en tout cas dans le domaine francophone.
Et comment pourrait-on la définir, cette notion-là?
Mais en fait, il s'agit d'artistes, en l'occurrence ici des plasticiens, mais il n'y a pas que ça, hein, puisque là c'est une exposition sur les arts plastiques et un petit peu la bande dessinée, mais ça peut être tous les domaines de la création, bien sûr. Ce sont des artistes qui, d'abord, sont des très souvent des gens très préoccupés par la situation environnementale du monde dans lequel nous vivons, et qui apportent des réponses qui peuvent être assez diverses, soit de l'ordre de la dénonciation, de l'alerte, comme on dit, des lanceurs d'alerte. Bon, il y a moins à faire maintenant parce que on est quand même relativement au courant de la situation. Soit des œuvres qui pour moi sont sans doute les plus intéressantes et celles qui posent le plus de questions, des œuvres qui relèvent de l'action qu'on appelle contextuelle, c'est-à-dire l'artiste agit dans un contexte particulier, il essaie de réagir à une situation. Par exemple, vous avez des artistes qui vont reforester des lieux, vous en avez d'autres qui vont travailler, améliorer la situation, par exemple des coraux, des barrières de corail, d'autres qui vont essayer de mettre en avant un combat pour la valorisation juridique de la notion d'écocide, par exemple. Bon, ça devient très, comme on dit, justement contextuel, c'est-à-dire non pas un art uniquement pour l'esthétique, mais un art pour l'action, en vue, bien souvent, de ce qu'on peut appeler une éthique. C'est l'esthétique ici rejoint l'éthique ou même parfois l'éthique déborde l'esthétique. Ce qui n'est pas sans poser un problème d'ailleurs en termes justement esthétiques, puisque pour certaines personnes la question est posée, mais qu'est-ce que l'art ? Est-ce que c'est ça réellement ? Et c'est en ce sens-là que ces formes d'art dites, on va dire écologiques, font avancer la notion d'art d'une manière très, très intéressante. Qu'on sache exactement ce que cela donnera, puisque c'est un art qui a une quarantaine d'années maintenant, mais qui est très très peu médiatisé, trop peu bien sûr, et d'une certaine manière dont les formes ne sont pas encore totalement fixées.
Et puis c'est aussi une notion, on va dire, qui dépasse, on va dire, le simple thème de l'environnement.
Mais oui, c'est-à-dire en fait, la plupart des gens ont un rapport, on va dire, à la nature, enfin comprise comme dans notre environnement hors urbain, on va dire plutôt comme ça, qui est un rapport de sympathie, d'empathie, mais maintenant même de co-souffrance. D'ailleurs, de plus en plus, beaucoup de gens souffrent avec cette nature, donc qui est très violemment prise à partie par les activités humaines, prédatrices notamment. Bon, donc. La sympathie, elle est de fait, mais vous pouvez pas, vous contenter peut-être de réaliser uniquement des œuvres qui chantent la beauté d'une nature parfaite, d'une nature éthérée, une nature, au fond, qui constitue un paradis depuis longtemps perdu. Je dirais pas depuis toujours perdu, mais depuis longtemps perdu. Alors ça, c'est intéressant parce que on a quitté la vision romantique. Moi, j'adore la symphonie pastorale, par exemple, de Beethoven, la symphonie numéro 6, d'autant plus que c'est un musicien qui était quasiment sourd, qui l'a composé déjà, et donc qui avait besoin d'images, parce que Beethoven composait en voyant des images. Il se mettait devant des images mentales et il composait. Mais on peut plus aujourd'hui faire ça, c'est-à-dire uniquement des œuvres qui nous représentent de beaux paysages, la nature triomphante. Cette vision romantique, d'une certaine manière, gardons-la pour nos rêves, pour nos espérances, ou pour certaines scènes, comme, je sais pas, Soleil Vert de Richard Fleischer, où on voit un homme qui va mourir, et avant de mourir, eh bien, il s'enferme quelque temps dans une capsule où il peut voir des images de ce qu'était le monde d'avant, on pourrait dire la catastrophe environnementale. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus regarder le monde de cette façon, bon, qui était celle dont les romantiques le regardaient au 19e siècle, début du 19e. Et 18e avec Jean-Jacques Rousseau, bien sûr.
Thank you.
éveille l'impression agréable en arrivant à la campagne. Karajan, ici, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, les premières mesures de cette symphonie pastorale de Beethoven que vous avez justement choisie pour nous, Paul Ardenne. En illustration à cette exposition Courant vert créée pour l'environnement dont on parle ce matin, vision romantique, hein, vous nous le disiez, ce sont peut-être des visions plus réalistes que nous pouvons découvrir au sein de cette exposition par le biais d'installations, de photographies, de vidéos, de dessins. Il est question de pollution, de réchauffement climatique, d'extinction des espèces. Et vous avez choisi, Paul Ardenne, en tant que commissaire de cette exposition, de la construire autour de trois axes. Avertir, agir et rêver.
Oui, bon, c'était le désir aussi de la Fondation de pas écraser le crayon un peu trop. Bon, pourquoi ? Parce que bon, la situation, je crois, est bien connue. Elle est plutôt désastreuse, on va dire, surtout en ce moment. On a tellement d'exemples entre les fonds de banquise, les grands incendies en Sibérie, en Californie, etc. Bon. On n'avait pas le désir de mettre en quelque sorte les visiteurs d'exposition en face d'une situation qu'ils connaissent bien par ailleurs, qui produit beaucoup de culpabilité, qui produit beaucoup aussi de désespoir, y compris chez les jeunes générations, légitimement d'ailleurs, on le voit bien. Et on voulait éviter ces deux effets. D'abord une célébration de la collapsologie, ou du collapse, c'est-à-dire de l'effondrement, bon, qui peut-être viendra au fond. Moi je suis pas un grand spécialiste des questions scientifiques liées à la climatologie. Et d'autre part ce qu'on appelle la solastalgie, c'est ce concept, bon, un peu discutable, mais intéressant dans la mesure où il met en avant l'idée que, normalement, dans notre demeure, la maison terre, on devrait se sentir bien. C'est un espace, normalement, pour nous protéger. Et or, c'est exactement l'inverse. On a la nostalgie d'un temps de bonheur soleste qui a été perdu, et on se sent mal. C'est-à-dire, on se sent mal. Alors, on voulait éviter ces deux données-là. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais pour dire, il y a aussi autre chose. Il y a un combat environnemental incontestable, et là-dessus, bon, je veux absolument saluer tous ces militants, quels qu'ils soient, d'ailleurs, même les militants du quotidien, bon, qui s'attache à aménager un petit peu l'environnement dans lequel nous vivons. Saluer aussi tous ces militants assassinés donc de par le monde, hein. On en compte plus d'une centaine l'année dernière, et le chiffre est en expansion, hein, notamment en Amérique latine, en Asie, etc. Tous ces gens qui s'opposent aux déforestations massives ou aux monocultures spéculatives, bien évidemment. Donc il y avait cette idée que il faut mettre l'accent sur l'action, et que les artistes plasticiens, notamment quelques-uns que nous montrons, et beaucoup d'autres, parce que ce n'est qu'une sélection assez médiocre en fait, il faut bien le dire, et sans doute discutable, sont à l'action. Ils sont à l'action. Et c'est quand même une chose nécessaire. Le monde ne nous est pas donné comme une sorte de cadeau, comme ça, dont on pourrait jouir sans aucune réciprocité. Vous voyez, nous avons aussi des devoirs, et ces artistes-là sont du côté du devoir, d'une certaine manière, et ça les rend pas, par exemple, ennuyeux, ou ça ne produit pas des œuvres uniquement conceptuelles, déclaratives, vous voyez, qui sont chaque fois des manifestes. Il y a au contraire une dimension poétique qui est incontestable, et qui permet justement d'accroître la dimension affective que l'on peut avoir avec l'élément naturel, et de nous pousser vers le désir d'une sorte de restauration, enfin en tout cas tout ce qui sera possible de restaurer. J'espère qu'il sera possible de restaurer quelque chose.
Et ça me rappelle justement une exposition que vous m'avez rappelée, Paul Ardenne, qui questionnait justement ces questions-là. En 2016, la Fondation Cartier pour l'art contemporain proposait, oui, le Grand Orchestre des Animaux, exposition inspirée par l'œuvre de Bernie Krause, musicien et bioacousticien américain. Ici, ce titre Océan, une immersion sonore pour sensibiliser le public. Il y a ici, évidemment, énormément de poésie aussi.
Oui, mais alors, Bernie Krause est très légitimement connu. Hervé Chandès, à la Fondation Cartier, avait eu l'excellente idée de valoriser ce travail, qui a été une découverte pour beaucoup de gens, c'est-à-dire le fait de nous faire écouter de nouveau les bruits de la nature. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde mécaniquement bruyant, industriellement bruyant, socialement bruyant, qui fait que nous n'entendons plus, d'une certaine manière, la signature sonore du monde de l'environnement, qui est absolument réelle. Bon, il faut entendre Bernie Krause vous dire, mais vous savez, même le maïs, par exemple, a une signature sonore. Tous les éléments naturels dans la nature ont une signature sonore. Le tout est de la saisir. Et cette exposition était, au fond, formidable parce que elle était constituée en fait d'enregistrements. Aucune invention, aucune dimension, on pourrait dire une volonté d'esthétiser tout ça, mais juste la saisie réaliste. Vous enregistrez par exemple une forêt, que ce soit une forêt indonésienne, donc équatoriale, que ce soit, je sais pas, une forêt normande, là, la forêt de Bord, pas très loin d'ici, et vous entendez toute cette extraordinaire vie qui est celle du biotope, le vivant, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, il y a tout cet univers. Et c'est extraordinaire de nous permettre de montrer ça dans un monde, dit Bernie Krause, où ce qui a disparu, c'est le silence et de fait la capacité de l'écoute. On ne peut écouter que quand on a des moments de silence, hein, des pauses en quelque sorte, pour reprendre la mesure de ce qu'est le ton.
Et dans l'exposition, vous nous faites, vous, écouter Paul Ardenne, un couple d'artistes, Lucie et Georges Horta. On va en écouter quelques instants et puis vous nous en parlez. Symphonie pour une vie sauvage absente, ça c'est une autre manière de nous faire écouter aussi.
Oui, il s'agit d'une œuvre très très forte, très belle aussi, de deux artistes qui vivent à Paris, non loin de Paris, dans la Brique, sont Lucie et Georges Horta. L'une est anglaise, l'autre est argentin. Ce sont vraiment des grands représentants de la cause environnementale et plus largement de la cause humaniste, on va dire. Ils sont au travail depuis maintenant une trentaine d'années. Cette symphonie pour la vie sauvage absente ou une vie sauvage absente a été créée il y a une dizaine d'années, pour la première fois au Canada, donc à Banff, non loin de Vancouver. Et elle consiste en fait pour ces artistes à réunir un chœur d'instrumentistes qui vont jouer avec des apôts les sons des animaux soit disparus de la région, soit en voie de disparition. D'où le titre, c'est Symphonie pour cette vie sauvage absente. C'est quelque chose tout à fait prégnant que cette représentation-là. Et ils ont depuis trois reprises, depuis cette première version, enrichit cette version qui devient une des grandes œuvres musicales, on pourrait dire, du début du 21e siècle. Et c'est très intéressant parce que c'est une œuvre où, en fait, vous n'avez pas de composition à proprement parler, on est dans le domaine de l'empreinte. Et c'est assez intéressant parce qu'on est 100 ans après Luigi Ruzzolo, par exemple, le futuriste, qui avait écrit ce fameux traité sur l'art des bruits, en disant, si on veut écouter de la musique, c'est simple, il suffit d'écouter le monde tel qu'il est, vous avez déjà la musique du monde. On va retrouver ça chez Edgar Varèse, enfin dans Ionisation, même un peu chez Satie, hein, donc dans Parade avec la machine à écrire, par exemple. Bon, ce sont des nouvelles formes de composition très intéressantes qui relèguent très très loin, extrêmement loin, tout le, on pourrait dire la composition savante, en particulier celle héritée du dodécaphonisme, de l'école de Darmstadt, par exemple, où bon, vous avez toujours cette recherche d'un son parfait, d'une esthétique absolue. Bon, on sent qu'au fond tout ça, c'est du transcendantal. Au fond complètement déconnecté de ce qu'est la réalité et qui suffit d'une certaine manière d'écouter la nature pour trouver justement ce qu'est peut-être cette véritable musique humaine, c'est-à-dire celle qui nous environne. Alors, j'ai montré une autre œuvre aussi d'un artiste américain, un jeune artiste appelé Nathan Grimes.
J'allais vous en parler.
Voilà, très intéressante de ce point de vue-là. Alors voilà, peut-être, moi je vous posais la question, pourquoi est-ce qu'elle vous a beaucoup marqué? Je vais renverser un peu les rôles.
De par sa simplicité. Oui. De son évidence, je pense que c'est vraiment ça qui m'a touchée.
Oui. Alors,
expliquez-nous.
Oui, il faut l'expliquer, c'est assez complexe. C'est une œuvre qui s'appelle « Quand le bouleau, l'écorce de bouleau chante ». Bon voilà, donc vraiment. Et il s'agit pour cet artiste tout simplement de composer à partir de l'œuvre naturelle. Voilà, à partir de l'œuvre naturelle. Beaucoup d'artistes dans l'exposition laissent la nature travailler. Par exemple, vous avez un Fernando Prats qui va noircir des toiles à la fumée. Il les installe ensuite dans le paysage, le long de la mer ou dans un désert, et en fait, c'est ce que la mer produit, ce que la poussière du désert, le vent produisent, qui font le tableau. Et il va chercher cette œuvre et il l'expose ensuite telle qu'elle. Nathan Grimes part d'un poème de Lucy Larcom, qui est une poétesse américaine, une contemporaine de Walt Whitman. Donc ce mouvement avec Sorrow, ce mouvement américain très transcendantaliste, amoureux de la nature, de l'environnement. Et Lucy Larcom, elle parle de l'écorce du bouleau, de sa beauté, etc. Et donc l'artiste va décoller une écorce de bouleau. Et à partir de cette écorce, dont les dessins constitue l'équivalent d'une partition. Il reproduit cette partition sur le plan d'un piano à queue et ça lui donne une musique justement, donc que nous allons entendre, j'espère, extrêmement curieuse.
Écoutons-la.
Si je puis me permettre de briser un peu l'harmonie, ici, c'est la rythmique, donc des lignes qui, en quelque sorte, dessinent l'écorce du bouleau. Hein, c'est leur longueur, la tonalité, la hauteur, etc. Et ça produit cette musique. Alors, ce sont des formes de composition très intéressantes. Je voudrais y insister parce que on a toujours cherché à composer avec des, on pourrait dire, des sortes de pré-positionnement, bon, dans la musique classique, dans la musique moderne, on parlait du dodécaphonisme tout à l'heure, il y a cette recherche d'une composition qui soit en accord avec le monde dans lequel on vit, ou le monde dont on rêve. Et là, on voit que finalement, la composition est dictée par l'écorce de bouleau elle-même. Et c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça signifie qu'au fond, quand on voit tous nos compositeurs de musique contemporaine qui souvent s'échinent à produire donc de merveilleuses machines très sonores, mais le plus souvent très très ennuyeuses, eh bien, au fond, la nature elle-même donne, pour peu qu'on puisse traduire, vous voyez, hein, qu'on puisse traduire la manière, ce qu'elle dit en musique, elle nous donne déjà des symphonies merveilleuses.
Voilà, l'artiste s'efface derrière la nature, ou du moins, on devient son traducteur. Des installations, des photographies, des vidéos, des dessins, des installations sonores également, comme on l'écoute à présent dans cette exposition. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, hein, Paul Ardenne, vous avez déjà été commissaire de plusieurs expositions qui traitent de cette question environnementale. Peut-être, quand vous êtes à l'écoute du monde d'aujourd'hui, quelle évolution avez-vous constaté depuis la première exposition et celle d'aujourd'hui présentée à la Fondation EDF ?
Moi, j'ai toujours un regret, c'est qu'il n'y ait jamais eu de grande exposition consacrée à l'écologie et l'art. Donc, c'est une première en France et même au-delà. C'est assez incompréhensible. De même qu'est incompréhensible, on pourrait dire, le peu d'intérêt que suscitent ces formes de création par rapport, bon, à des artistes surconnus mais mineurs comme Jeff Koons ou d'autres, bon, qui focalisent beaucoup d'intérêt médiatique. Bon, ça, il faudra interroger le système pour expliquer les raisons de ces choix, qui sont des choix évidemment très très contestables, très dangereux d'ailleurs sur le plan idéologique, et dont il faudra sans doute rendre justice à un moment donné. En revanche, je ne suis pas très optimiste, non pas parce qu'il faut l'être, mais il faut rappeler quand même qu'il y a 50 ans, c'était la création, en 1970, de la Journée internationale de la Terre, que Greenpeace a été créé à ce moment-là,
22 avril.
Que le combat écologique est une très ancienne chose maintenant, un demi-siècle, et que, si vous regardez bien, depuis cette période-là, tous les indicateurs de destruction écologique sont au maximum. Voilà, ce qui prouve bien que, d'une certaine manière, il ne faut pas se leurrer, il ne suffit pas de produire de belles œuvres, de rêver sur une nature sublimée que l'on pourrait réparer dans le cadre d'une esthétique du soin. C'est très bien, il faut aussi agir, il ne faut pas seulement rêver. Il faut rêver, il faut agir et il faut avertir, bien sûr.
Les trois piliers de cette exposition, Courant Vert, créé pour l'environnement, à découvrir à l'espace Fondation EDF dans le 7e arrondissement à Paris jusqu'au 31 janvier. L'entrée est libre. Un site fondation.edf.com pour toutes les informations. Écoutez et regardez le monde d'aujourd'hui avec Paul Ardenne comme commissaire de cette exposition. Et j'invite aussi nos éditeurs à découvrir cet ouvrage, Un art écologique, création plasticienne et anthropocène, paru aux éditions Le Bord de l'eau en 2018. Toutes les informations sur la page de l'émission Musique Matin sur francemusique.fr. Paul Ardenne, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et restez avec nous.
Chère auditrice, chère auditeur, chère auditrice, chère auditeur.
Car c'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un procédé qui me donne énormément de plaisir depuis tout petit. Ça a trait aux dissonances, ça a trait à mélanger des tonalités. Ça s'appelle la polytonalité. Enfin, là, je vous parlais de bitonalité, donc deux tonalités en même temps. C'est un plaisir immense. On écoute. Mmh. Bon, Billy the Kid se fait capturer hein, par chez Aaron Copland, mais il y a quelque chose de qui est off, qui ne va pas, quoi, la basse. Elle va pas sur cette mélodie. Les deux ne vont pas ensemble.
Mais en même temps, si.
Ouais, mais écoutez, je voulais jouer au piano, ce que ça devrait être normalement. Là, c'est lumineux, etc. Je vous ai joué ce que fait Copland. Il fait ça, lui. On va quand même écouter Billy Capture 2 pour que vous compreniez maintenant. Maintenant qu'on l'a entendu, on voit l'épice que c'est, quoi. En fait, si on compare une composition à une maison, ça va être une charpente en bois sur un toit en tôle, quoi. Je sais pas. Enfin, des choses qui ne vont pas ensemble, a priori, quoi. Bon, j'ai pas une super métaphore pour la
polytonalité. Non, mais elle était très belle. Elle était bon. Très belle. Bien essayé.
En fait, en revanche, j'ai des exemples. Il y a un type qui est très très fort pour la polytonalité. Bon, il y a Stravinsky, il y a tout ça, mais il y a Charles Ives qui est ce compositeur américain dont le papa lui faisait chanter des choses en même temps qu'il y avait des fanfares des marching bands qui se croisaient, quoi. C'était ça son univers. Donc on va pas écouter Decoration Day, mais on va écouter La Question sans réponse, qui est une œuvre assez géniale, bon, ouais, que j'adore pas, mais qui nous parle vraiment de la polytonalité, parce que on a un accord de sol majeur lumineux et la question posée par la trompette dans une autre tonalité, rien à faire, on a rien à faire. On écoute. Et la trompette va poser sa question dans une autre tonalité. Ouh, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte.
On ne la voit pas venir. Hein.
Bon, bref. J'ai deux exemples. En fait, tout ça pour arriver à un exemple d'un morceau que j'écoute depuis une semaine en boucle, mais c'est du hip-hop. Donc, c'est le dernier truc. Et là, on a sur Autorino Respighi, qui fait une mélodie très tonale, très normale, et pareil, un corps qui va venir se placer sur cet accompagnement, lui en ré bémol, lui sera en do majeur. Voilà, c'est mélangé les tonalités de l'élément. Là, on est très normal, très tonal, c'est très beau d'ailleurs. Écoutez ce que va faire le corps. Là. Il est où? La de la fin. La de la fin. Et là, encore pire.
On a un peu l'impression qu'il vit sa vie. Mais exactement. Tout seul.
Ouais, mais c'est une épice. Moi, j'adore ça. Ça me fait comme, c'est comme si on grattait sur un endroit pour me dire, ça peut être plus cool la ville. Et ça peut être.
Et vous avez un dernier.
Oui, j'ai un dernier exemple. C'est A$AP Rocky. Je vous ai joué. Je suis fasciné par ça. On peut envoyer. Normal. Je vous ai joué du piano par-dessus, vous allez voir. Et ensuite, je l'ai enlevé pour que vous voyez quelle basse eux ils ont mise. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est je le rajoute pour que. Mais lui, il va mettre une basse d'un ton en dessous. D'où ça va pas du tout avec les motifs.
Et vous avez une réponse à cette question?
C'est parce qu'ils sont généralement forts et ils savent comment nous provoquer, nous faire voir autre chose, quoi. Voilà, je vous laisse avec ce procédé qu'on retrouve un peu partout dans la musique du XXe siècle. Et puis on retrouve, comme disait Paul Arden, dans la musique concrète, le grand orchestre symphonique. Il est polytonal par essence. Il y a plein d'événements qui se passent.
Des animaux.
Tous les sons sont multitonal, quoi. Multitonal, pardon.
Merci beaucoup, Christophe, pour
cette chronique géniale qu'on va écouter sur francemusique.fr. Bien sûr, on vous retrouve la semaine prochaine.
Avec
Il me
plaisir.
Reste une poignée de secondes pour remercier bien évidemment l'équipe Marie-Ferdinand, David Trailleur, Cindy Le Grumelec et Emmanuel Dupuis. Et pour vous dire un petit mot aussi sur notre concours du jour avant qu'on se quitte, je vous proposais ce matin de remporter le disque des grands motets de Jean-Baptiste Lully par la Capella Mediterranea et Leonardo Garcia Larcón. Il fallait pour cela deviner la nationalité de Jean-Baptiste Lully avant qu'il soit naturalisé français. Alors, Christophe, Paul, belge, brésilien ou italien ?
Italien.
Bravo, mais, Christophe.
Enfin, moi j'habite Square Louvois. Vous voyez, il y a tous les noms de rue. Il y a Rameau, Lully.
C'est vrai qu'ils sont tous dans les.
Ils sont tous. Mais ils sont japonais maintenant.
Voilà. Ben voilà. Eh bien, italien. Donc, les personnes qui ont bien répondu et qui seront tirées au sort recevront le disque par
questions.
La poste.
Vous voulez pas que je vous en prépare des questions?
Mais
là,
comme franchement,
ça
je mets au moins 3 heures par semaine pour les pour les penser. Okay. Donc voilà. Mais beaucoup de succès en tout cas pour les auditeurs qui sont nombreux à tenter de remporter ce disque. Merci à toute l'équipe donc. Et puis tout de suite, eh bien, c'est l'heure de France Musique est à vous. Gabriel Olivier Aguillon, bonjour.
Salut Saskia. Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel.
Un petit hommage à Juliette Gréco ce matin.
Oui, absolument. Nous l'écouterons en fin d'émission. Nous avons eu beaucoup de mails d'auditeurs qui veulent évidemment écouter cette grande chanteuse et comédienne. Et puis du coup, moi je suis ravie parce que je sais où habite Christophe Chassol.
Voilà, et tous nos auditeurs aussi.
De toute façon.
On est passé de Lully au Square Louvois, c'est dans le deuxième à Paris, c'est ça?
Voilà, ouais.
Très bien, très bien.
Tout près de l'Opéra.
Ouais. Alors le code c'est 39480.
Allez, Gabriel, bonne émission.
Bon week-end à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.